On va continuer un petit peu dans Josué. C'est vrai que c'est un livre d'une grande richesse. Et je relisais les 9 premiers versets de ce livre, du premier chapitre, et je me disais combien il y a encore de choses à dire. Et je me suis dit que finalement, eh bien, il fallait les dire, parce que ce qui est bon à dire, eh bien, il faut le dire. Alors, pour commencer, je voudrais vous rappeler une petite histoire, ou rappeler peut-être que vous n'avez jamais même entendu parler. Mais un Romain du nom de Plutarque a écrit ce qu'on appelle les vies parallèles. Alors, je vois des hochements de tête, ou un hochement de tête, je vois que je parle à quelqu'un qui connaît. Et alors, la personne, Plutarque, a pris un Romain et un Grec, et il a compté leur vie. Et c'est passionnant parce que c'est intéressant. Bon, c'est pas forcément toujours très historique, mais un des premiers couples, c'est bon, je me rappelle pas du grec, mais le Romain s'appelait Marius. C'est tout à fait au début. Et Marius était du temps de la République. C'était pas de l'Empire, de la République. Et pendant qu'il sa vie. Et il était sénateur, autant que ma mémoire s'en souvienne. Il y a eu l'invasion des Cimbres et des Teutons, qui venaient par le nord. Et ils ont mis 2 ans à arriver dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Provence. Et les Romains étaient avertis, savaient qu'ils arrivaient. C'était une marée humaine. Et ils étaient dans une terreur folle. Et ils ont, dans la loi romaine, dans un cas d'urgence comme cela, on élisait un dictateur. Un membre du Sénat était élu comme dictateur avec plein pouvoir de vie et de mort sur n'importe quel Romain et de prendre n'importe quelle décision. En général, on confiait cela à un homme que l'on savait que ce n'était pas un fou. Et alors, Marius a été choisi. Et cet homme a pris tous les Romains, là il n'y avait pas d'exception, tous les Romains, je ne sais plus, de 20 ans à 40 ans, sont partis pour rencontrer ces Cimbres et ces Teutons. Mais ils avaient 2 ans. Et alors, pendant cette attente, ils ont creusé ce qu'on appelle le bras mort du Rhône. C'est eux qui l'ont creusé, pour que les galères remontent jusque à Arles. Et puis, il a construit une forteresse très très puissante. Si bien que des gens qui étaient maigrichons et pas très très aguerris, eh bien, après avoir creusé un canal de, je sais plus, il y a une soixantaine de kilomètres, ils étaient devenus des hommes forts, après 2 ans. Et puis, quand les Cimbres étaient là, juste, ils avaient une rivière entre eux et les Romains, eh bien, ils les faisaient placer sur les murailles de la forteresse pour qu'ils aient les ailes en face. Et tous les matins, les Cimbres venaient s'agiter, montraient des boucliers, faisaient des. Hein, ils ne comprenaient rien du tout. Mais comme ils avaient très peur, les Romains avaient très peur, il les a habitués à faire face à l'ennemi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après une grande bataille, les Romains ont gagné. C'est la leçon de tout cela, c'est que rien ne se fait sans une préparation. C'est beaucoup de chrétiens disent, mais nous avons le Seigneur. On va y arriver, il n'y a pas de problème, on a le Seigneur. Mais c'est vrai. Et je ne veux pas dire le contraire. Mais rien ne se fait sans une préparation. Vous avez un peuple qui arrive pour conquérir le pays de Canaan. C'est très intéressant. Mais revenez à l'histoire de ce peuple. Ils étaient esclaves en Égypte. Le pharaon les a durement opprimés. C'est-à-dire qu'ils avaient une charge de briques à faire tous les jours. Eh bien, on leur a prescrit de chercher aussi la paille. C'est-à-dire qu'ils ont été poussés au bout d'eux-mêmes. Dans leur corps, sont allés si loin qu'ils ont pu traverser le désert. Et bon, ils ont tourné 40 ans. Cette génération qui a été esclave est morte dans le désert. Et les enfants, eux, étaient des personnes qui ont vécu dans le désert, qui ont vécu des travaux de force très rudes. Quand ils sont arrivés en face de Canaan, ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient la puissance de Dieu. Mais ils n'étaient pas faibles. C'est Dieu avait prévu à ce que même dans leur corps, même physiquement, eh bien, ils soient aguerris pour une longue campagne qui va durer des années. Et je peux vous dire que aller d'un lieu à un autre, poursuivre des ennemis, aller conquérir et tout cela, eh bien, ça n'a pas été facile. C'est au départ, ils avaient peur de ces gens et ils étaient peut-être pas aussi forts qu'il le fallait. Mais Dieu, par l'épreuve, les a transformés et a fait des personnes capables de conquérir le pays. Cela m'amène à une chose, c'est que Satan se trompe toujours dans ses objectifs. Sachez que si Satan fait une chose, il va en payer les conséquences. Il n'aurait rien fait, que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui. Si par exemple le pharaon ne s'était pas imaginé de persécuter le peuple d'Israël, ils avaient des esclaves, bon, mais ils les auraient traités comme des esclaves, mais pas en faire comment dire, des martyrs. Il les a persécutés. Si bien qu'ils ont quitté l'Égypte avec soulagement. Plus tard, ils l'ont regretté. Mais ils ont quitté l'Égypte parce que la servitude était très, très, très dure. Ils ont vomi l'Égypte. Ils sont partis en soupirant après la liberté. Satan fait toujours une œuvre qui le trompe. Quand Pharaon agit d'une telle manière qu'il a persécuté le peuple d'Israël à outrance, eh bien, il a préparé un bon témoignage. C'est que le peuple est sorti après 10 plaies, après des pressions terribles de la part de Dieu sur les Égyptiens. La mer Rouge s'est ouverte et a englouti l'armée des Égyptiens. Et tout ça, les Cananéens le savaient. Ils n'avaient pas le journal qui sortait tous les jours pour qu'ils allaient acheter comme cela. Ils n'avaient pas les nouvelles dans un journal. Mais néanmoins, les choses se savaient. Peut-être qu'elles ont pris un peu de temps pour arriver. Mais on disait, oui, mais la grêle est tombée. Il y a eu le feu du ciel. Tous les arbres d'Égypte. Si vous avez l'Égypte, vous avez déjà été. C'est pas la peine, oubliez l'Égypte que vous avez vue. Hein. Elle n'existe plus. Dieu avait ruiné l'Égypte économiquement. Et toute la jeunesse et tous les hommes vaillants de l'Égypte étaient morts. L'armée des Égyptiens n'existait plus. Elle était au fond du Nil, de la mer Rouge. L'Égypte était ruinée. L'économie n'existait plus. Et les Cananéens le savaient. Et le peuple d'Israël ne soupçonnait pas à quel point tout ce qui s'était passé en Égypte avait préparé le terrain devant eux. Et ils avaient peur des Cananéens, mais les Cananéens avaient beaucoup plus peur d'eux. C'est quelque chose, vous savez. Satan essaye de se présenter comme quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un qui tient toutes les possibilités. Il a tout en main. C'est comme si vous avez joué aux cartes, on dit il a tous les atouts. Voilà. Quelqu'un a tous les atouts, il a gagné. C'est comme cela. Je me rappelle d'une scène d'un film célèbre. Il avait les cartes, il a dit maintenant. J'ai toutes les cartes, tous les atouts, vos cartes sont à moi. C'est une scène je ne sais plus si c'est, je crois que c'est Marius aussi, dans Pagnol. Et alors, il croit qu'il a tous les atouts et qu'il a gagné. Et je peux vous dire, Satan a perdu. Il est le grand perdant de l'histoire. Parce qu'un seul est vainqueur, un seul triomphe, c'est Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle le tout-puissant. Si aujourd'hui il disait une parole, parce que comme je vous ai dit la semaine dernière, la parole de Dieu est puissante. C'est s'il disait une parole, Satan disparaît. Ou il va en enfer immédiatement. C'est fini. Son rôle est terminé. Il suffit que Dieu dise une parole. Il suffit que Dieu dise une parole et ce monde tombe à genoux et reconnaît que Dieu est le Tout-Puissant. Il ne faut pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose, vous savez. Nous ne voyons pas l'avenir. Nous voyons que les forces impressionnantes de l'ennemi, on voit celui qui est devant nous et celui qui semble être le maître des circonstances. Et vous vous trompez. Le maître des circonstances, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le monde, c'est Dieu. Parce que dans l'histoire de l'humanité, celui qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Et même, il n'aura pas seulement le dernier mot, mais là aussi, tous les mots entrent. Satan fait une œuvre qui le trompe. Satan se séduit lui-même. Il croit qu'il a des succès et ses succès lui montent à la tête. Et jamais il est si près de sa perte que le jour où il croit qu'il est tout puissant. Il est arrivé un jour, il a dit, je suis maintenant très puissant. Et il me suffit d'un rien, et je mets mon trône au-dessus du trône de Dieu. Et il a été précipité. Il est tombé. Comment, quelle folie lui a pris de croire qu'il pouvait mettre son trône au-dessus de Dieu. Dieu n'est pas un ange. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas... Il est Dieu. Et je peux vous dire, on dit... ce mot qui n'a que 4 lettres, mais je peux vous dire que cela parle de quelqu'un qui est au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Nous regardons, quand je veux penser la grandeur de Dieu, je pense à l'univers. On parle en milliards d'années. Je ne veux même pas vous faire discuter là-dessus. Hein. Milliards d'années. Milliards, personne ne peut compter. Mais c'est des milliards d'années lumière. La lumière... vous savez, hein, c'est 300 000 km à la seconde. Ce sont des années-lumière. C'est-à-dire que chaque seconde, c'est 300 000 km. Donc, c'est des milliards de milliards de milliards de kilomètres. Et Dieu est le créateur de tout ça. Et il connaît chaque poussière de cet univers. Et il sait où elle est placée. Voilà. C'est son immense connaissance, son immense sagesse. Quel est le fou qui pense qu'il peut mettre son trône au-dessus de la puissance de celui qui a créé toute chose, de celui qui soutient toute chose, de celui qui connaît le moindre atome de toute chose qui existe dans cet univers. Et il connaît les circonstances de nos vies. Il sait les pourquoi et les comment. Et il connaît les chemins des cœurs et il sait comment il peut agir, il sait comment il peut faire. C'est quelque chose, vous savez. Il y a des personnes qui ont choisi leur camp. Quand nous naissons dans le camp de l'ennemi. Nous ne sommes pas dans le camp de Dieu. Naturellement, nous ne sommes pas. Adam nous a entraînés dans la chute et nous sommes des enfants d'Adam, c'est-à-dire que naturellement, nous nous plaçons dans le camp de l'ennemi. Même s'il y a de braves gens, néanmoins, ils ne veulent pas de Dieu. Donc, ils préfèrent celui qui est de l'autre côté. Mais ce qu'il y a, c'est que par la nouvelle naissance, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous entrons dans l'armée de l'Éternel. Et alors, les choses sont différentes pour nous. Nous avons avec nous le Dieu vivant. Avant, nous étions dans le monde. Le monde est sous la puissance de Satan. C'est une puissance plus puissante que nous. Mais nous avons avec nous plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est toute la différence. Et alors, qu'est-ce qui fait que, ayant le grand Dieu de notre côté, et ayant en face de nous l'ennemi vaincu, l'Église ait si peu de puissance et si peu de pouvoir sur ce monde? Et que nous sommes souvent en train de nous regarder comme des vaincus, comme des personnes qui vivent dans la défaite. Et nous disons, ben voilà, oh ben je n'y arrive pas, oh ben je ne peux pas, oh ben vous savez ce qui nous arrive, c'est dur. Là, je viens d'avoir un long coup de téléphone de quelqu'un qui m'a ressassé des choses. Ça fait des années que j'essaye d'expliquer à cette personne que la vie chrétienne, elle se vit par la foi. Oui, mais pourquoi cela arrive? Bon, Abdelnour est décédé. Alors la personne me dit, mais pourquoi lui? Pourquoi il est si jeune? Pourquoi ceci? Mais les pourquoi? Je n'en ai rien à faire des pourquoi. C'est Dieu qui a la réponse au pourquoi. Moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas de réponse au pourquoi. L'interpellation, c'est est-ce que j'ai la foi en Dieu ou est-ce que je ne l'ai pas? C'est pas pourquoi. C'est Dieu agit souverainement. Et il n'agit pas, ce n'est pas un insensé. Il est infiniment sage. Et il sait pourquoi un jeune homme, ou un homme assez jeune, à 40 ans, part. Il le sait. Et un jour, dans l'éternité, nous verrons le résultat de la sagesse infinie de Dieu. Mais ces personnes, eh bien, vous disent, mais pourquoi? C'est la vie chrétienne se vit par là. Quand vous regardez l'histoire, j'ai renoté trois choses, trois endroits. Il est dit, au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. » Au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Et au verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. » C'est quand même quelque chose, hein? C'est dit trois fois. Mais c'est dit à Josué, qui était un homme de Dieu, un homme de foi et de courage. À plus forte raison à nous, qui ne sommes pas des Josué. Nous n'avons pas une nature de guerrier. Hein. Josué était un homme de guerre. Il savait ce que c'était que de tenir une épée et d'avoir des ennemis en face de lui et de triompher. Nous n'en sommes pas là. Mais au-delà de Josué, Dieu nous dit ces paroles. Fortifie-toi et prends courage. Combien nous avons tendance à être découragés. Combien nous avons tendance à regarder autour de nous. On regarde le monde, on dit il est puissant. On regarde tout ce qui se passe au monde, il est intelligent. On se dit, oh, mais ils en savent des choses. Oh, mais ils ont les médias entre les mains. Oh, mais ils ont toutes les possibilités. Oh, mais ils nous interdisent. Oui, mais on ne peut pas. Et alors, on regarde autour de nous et on oublie de regarder à Dieu. Il y a un moment dans la vie chrétienne, dans la vie d'un chrétien, où il décide de prendre courage et de se fortifier et de dire non. Je ne laisserai pas les choses continuer dans ma vie. Vous voyez, si vous êtes sur une rivière, pas sur un lac, hein, un lac, vous pouvez lâcher les rames de votre barque, mais si vous êtes sur une rivière, et j'ai été un jour, j'étais un tout petit garçon, et mon père et son beau-frère m'avaient amené, voilà, comme ça ma mère était plus tranquille, et on est monté dans une barque. Et cet oncle s'est mis aux rames. Et c'était sur une rivière, je ne sais plus si c'est du côté de Nevers. Voilà, c'est une rivière assez lente. Hein, et on a traversé la rivière. Mais même si une rivière semble ne pas bouger, elle bouge. L'eau circule. Elle ne reste pas stagnante. On ne la voit pas couler à grand flot, ce n'est pas un torrent, mais vous ne lâchez pas les rames. Il faut toujours avoir du mouvement et vous avancer. Et beaucoup de chrétiens, devant les circonstances, ont lâché les rames de leur vie. Alors, ils disent, oui, mais Dieu va nous secourir. Dieu ne prendra pas les rames à votre place. Hein. Jamais. Jamais. Il y a un moment où Dieu dit, le pays est devant vous, vous allez le conquérir, les ennemis ne tiendront pas, mais il leur dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que même si les ennemis, il a fait en sorte que les ennemis sont terrorisés par la présence d'Israël, même si il y a les ennemis sont très affaiblis, même si ils ont toutes sortes de choses qui leur sont arrivées et qui les ont diminuées, parce que j'imagine qu'il y a eu des maladies, il y a eu des épidémies, parce que bon, etc. Ils étaient diminués. Eh bien, si le peuple ne se fortifiait pas et ne prenait pas courage, jamais il n'aurait pu conquérir le pays. Il y a un moment où ce mot de trois lettres, foi, entre en question. C'est le moment où on décide, je vivrai par la foi. Je me confierai dans l'Éternel. Dieu a dit ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, fortifie-toi et prends courage. Et toutes les promesses qui sont dans ces 9 versets, c'est que le pays est devant et vous allez le conquérir, il est à vous. Mais il leur dit, fortifie-toi et prends courage. Les choses ne se feront pas toutes seules. Ce n'est pas parce que Dieu a tout préparé que les choses vont arriver forcément. Il faut que l'homme, l'être humain, se lance, le chrétien, se lance dans la bataille et qu'il dise, j'y vais, je me fortifie, je crois en Dieu, j'ai Dieu avec moi. Qui va être contre moi? Comment est-ce que... Et il y a des personnes qui disent, oui, mais je ne suis pas ceci, mais je n'ai pas... Mais ne regardez pas à ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas, à ce que le monde est ou ce qu'il n'est pas. Il faut regarder à Dieu et à ses promesses. Dieu a parlé. Et c'est comme je vous ai dit la semaine dernière, les promesses que vous avez dans ces 9 versets, vous en avez au moins 4, hein, eh bien ces promesses-là sont des promesses vitales pour votre vie. Ce ne sont pas des promesses que vous pouvez prendre à la légère, mettre de côté. C'est la parole de Dieu et il s'agit de les saisir et de les approfondir et de dire ça c'est mon territoire, c'est à moi, je garde cette place, forte. Il y a un moment où, une fois que l'on a passé le Jourdain, il faut établir ce qu'on appelle une tête de pont. Et à partir de là, eh bien, on mène les opérations. Mais il y a un moment où il faut dire, on dit, je décide que les choses vont être différentes maintenant. Elles ne seront plus comme elles ont été avant. Et Satan peut me convaincre. Et mon corps, et ma pensée, et mon petit moi, et toutes sortes de choses peuvent venir. Celui qui a raison, c'est Dieu. Et il y a des évidences. Et Satan va nous les présenter, les évidences. Il va nous dire, oui, mais tu n'es pas ceci, mais tu n'es pas ça, mais tu ne peux pas, mais tu as déjà vu, mais tu as essayé 10 fois, 20 fois, 100 fois, ça fait 20 ans que tu essayes, 40 ans. Il peut ajouter des années à des années, et des arguments aux arguments. Celui qui a raison, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan est vaincu. Et puis une autre chose, Satan est un menteur. Et son plus grand mensonge, c'est de prendre la vérité et de nous la présenter. Parce qu'il la présente toujours dans le mauvais sens. On va vous dire, oui, mais je n'ai pas fait d'études, allez. Un bon argument. Je n'ai pas fait d'études. C'est vrai. Mais ce n'est pas une raison. Vous savez qu'il y avait un homme qui n'avait pas fait d'études et qui a été un grand homme de Dieu. Moody. Moody vendait des chaussures dans un magasin. Et c'est là que Dieu l'a appelé. Il n'avait pas fait d'études. Hein. Et pourtant, on aimerait bien qu'il n'y en ait qu'un seul de Moody, de nouveau. Qu'est-ce que ça serait différent? Il n'avait pas fait d'études. Et puis d'autres, hein, je ne veux pas rentrer dans... Et il y a des gens qui ont fait des études, et qui ont été complètement inutiles à l'œuvre de Dieu, parce que leurs études les ont empêchés de faire confiance à Dieu. Ils en savaient trop. Ils étaient trop confiants en eux-mêmes. Ils n'avaient pas de possibilité de se confier en Dieu. Alors, si certains ont des arguments pour dire « je ne peux pas, je ne suis pas », etc., d'autres n'y arrivent pas parce qu'ils sont. Et ils ne veulent pas faire confiance à Dieu. Au moins, moi, j'ai un doctorat en théologie. Vous me parlez de la foi, oui, mais la foi, je vais vous expliquer. C'est dans tel passage, il est dit, la foi, et ils expliquent la foi, mais ils ne vivent pas la foi. C'est comme si vous avez, je me rappelle d'un chrétien, il avait toute une, le Vidal, quoi, si vous savez ce que c'est. C'est là que sont répertoriés tous les médicaments. Alors, il avait toutes les, puis tout était souligné, tout noté et tout, mais il y a des personnes qui sont comme ça, et ils sont malades. Pourquoi ? Et parce qu'ils ne vont pas voir le médecin. Ils ont le Vidal. Eh oui. Ils ont le mode d'emploi. Ils savent. Ah oui, mais le médecin, oui, il va me dire que c'est ceci. Oui, mais il va me dire que c'est ça. Et ben oui. Mais ils ont les réponses. Ils ont. Mais ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas guéris. Ils sont toujours malades. Parce qu'ils ne vont pas là où il faut. C'est le problème de ces personnes qui en savent trop. Alors certains disent « j'en sais pas assez », d'autres en savent trop. Et le résultat est le même. Il y a ce que dit la parole de Dieu. Ce verset 3, il dit « tout lieu que... » D'abord le verset 2, parce que « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse. Dieu a parlé. De nouveau, c'est une référence à la parole de Dieu. Dieu a parlé. Donc, je vous le donne comme je l'ai dit. Parce que Dieu, quand il dit, c'est la vérité. Je peux dire une chose. À chaque fois qu'un chrétien se trouve à un endroit, cet endroit est à lui. Parce qu'il est dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied. Et beaucoup de chrétiens et de missionnaires ont dit, je prends ces paroles au mot. Et ils sont allés dans des pays, et jamais l'évangile n'avait été annoncé. Ils sont arrivés dans un pays où l'évangile n'avait jamais été annoncé. Et ils ont posé le pied, et ils se sont réclamés de cette promesse. Ils ont dit, je foule cette terre pour qu'elle appartienne à Dieu et que la puissance de l'ennemi recule. Et si vous entrez dans un supermarché, si vous allez dans des endroits et où vous dites « je foule ce lieu au nom de Dieu », c'est « je marche dans la terre promise ». Il y a des multitudes qui nous entourent et ces multitudes ont besoin de connaître l'Évangile. Elles ont besoin d'être sauvées. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas qu'il y a un évangile. Ce sont de vrais Cananéens. Ils ne savent pas. Oh, bien sûr, les conquêtes que nous avons à faire aujourd'hui, il n'y a pas de sang qui coule. Il y a une défaite, mais c'est la défaite de Satan et de la puissance de Satan. Et c'est la défaite de tous ceux qui s'élèvent contre Dieu et contre l'évangile. C'est une guerre de l'éternel que nous avons à mener. Et c'est vrai que parfois on a l'impression d'avoir la défaite, mais c'est une impression. Ne croyez pas que l'évangile reculera. L'évangile fera des progrès, il avancera. La France était un pays où l'évangile a été annoncé. Quelqu'un a dit, et je crois que ce qu'il a dit est exact, qu'il n'y a pas un lieu sur le territoire français où un chrétien n'a pas prié à un moment ou à un autre, où la parole de Dieu n'a pas été lue. Il n'y a pas un lieu, parce que l'évangile a été annoncé et répandu plus que vous pouvez l'imaginer. Il y a eu des Bibles. Dans la Bibliothèque nationale, pour le XIIe et XIIIe siècle, il y a 60 versions différentes du Nouveau Testament. 60 versions différentes. Aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, il n'y a pas 60 versions différentes de la Bible imprimées qui ont cours. Mais au Moyen-Âge, à l'époque où il n'y avait pas l'imprimerie, il y avait 60 versions différentes de la Bible. Oh, bien sûr, il y a des patois, des dialectes, des trucs et des machins. Ce n'est pas forcément en français, hein. Mais la parole de Dieu a été annoncée. C'est un territoire qui appartient à l'Éternel. Il n'appartient pas à Satan. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts pour que la parole de Dieu nous soit transmise. Et elle nous a été transmise parce qu'ils ont été fidèles. Nous sommes vivants aujourd'hui et nous avons la responsabilité de poursuivre leur travail avec foi, avec zèle, avec consécration. Il y a un territoire à conquérir, il y a le pays de Canaan à conquérir. C'est pour cela que je vous encourage, quand vous êtes dans un endroit, priez, intercédez auprès du trône de la grâce. Vous êtes dans un supermarché, vous êtes dans un métro, vous êtes dans votre travail, vous êtes priez. Remettez les âmes à Dieu. Priez pour leur salut. Priez pour des occasions d'annoncer l'évangile. Que vous ayez sur votre chemin des personnes à qui vous pouvez témoigner de votre foi. Il y a des moments où on pose le pied, on dit « Seigneur, je te prie que je puisse annoncer ton évangile ici. C'est un lieu que foule la plante de votre pied. Vous êtes partout où vous êtes. Vous priez, vous intercédez. Tout à l'heure, je voyais un homme dans le métro. Mon cœur était brisé pour lui. Hein. Je dis, quelle misère dans cet homme. Quelle misère. Voilà, il est arrivé à 50, 60 ans. Et je vois pas d'espérance dans sa vie. Pas d'espérance. Il était en plus mouillé par la pluie. Un visage triste, défait. Je me dis, mais quand même, nous avons autre chose. Un homme, un être humain, n'est pas une épave. C'est une créature de Dieu. Satan en fait des épaves, et ils croient qu'ils sont très fiers parce qu'ils ont rejeté Dieu. Satan n'en fait que des épaves. Et nous avons un évangile qui redonne à l'homme sa dignité, sa dimension d'être humain, sa dimension de créature de Dieu. De créature spéciale de Dieu. C'est pas un chien, c'est pas un chat. Parce que aussi, ce sont des créatures de Dieu. Mais c'est l'homme, l'être humain, est une créature spéciale de Dieu. Il a créé tous les animaux. Le sixième jour, il a créé les animaux. Et puis, quand il a créé l'homme, il a créé spécialement. Et c'est cette créature-là qui s'est avilie et qui est descendue si bas que le Fils de Dieu est venu et a donné sa vie pour cet être humain. Oh, je vous dis, quand vous êtes dans les endroits, rappelez-vous ce verset. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Et revendiquez-le au moins par la prière. Et remettez les gens qui sont sur cet endroit au trône de Dieu. Remettez-les et recommandez-les à Dieu. Qu'un jour, ces personnes entendent l'évangile. D'une manière ou d'une autre, que quelqu'un prenne la peine, que ce soit dans un concours de circonstances, que ce soit dans n'importe quelle situation, que la personne puisse entendre l'évangile. Et si c'est vous, et si Dieu vous dit parle, eh bien parlez. Et munissez-vous toujours des armes pour donner à ceux que Dieu dirait parle. Parce que parfois il faut laisser un petit traité, une adresse. Et c'est plus facile de l'avoir déjà dans sa poche, que de dire « excusez-moi, je n'ai rien emporté, je n'avais pas prévu de vous parler. » Mais nous devons avoir toujours en prévision de parler. Parce que Dieu, à n'importe quel moment, peut vous dire « parle, vous avez votre voisin à côté. » Et Dieu vous dit « parle, et bien parlez. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Passez le Jourdain. » À un moment, il faut dire « je prends courage. » Je me fortifie. C'est maintenant le jour. Et je veux dire une chose. Si vous attendez demain, à demain, il y aura encore un autre demain. Jusqu'au jour où il n'y a plus de demain. Et où nous sommes dans la présence de Dieu Et nous devrons rendre compte de notre administration, comment nous avons géré le patrimoine que Dieu nous a offert, comment nous avions un capital entre nos mains, et ce capital, nous l'avons dilapidé en toutes sortes de folies, alors qu'il fallait l'utiliser pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose de très important, c'est de se rappeler que Dieu a parlé. C'est donc les versets que je vous ai donnés, c'est des versets qui parlent énormément. Ils nous donnent une direction et fortifie-toi et prends courage, mais dans la parole de Dieu. Dieu a parlé. Ce ne sont pas vos impressions, ce ne sont pas les circonstances qui gouvernent votre vie, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, nous sommes gouvernés par nos impressions, par nos sentiments, par nos pensées, par l'opinion des autres, par le mouvement de ce monde. Mais un chrétien doit être conduit par la parole de Dieu et par la puissance de l'Esprit de Dieu qui parle en nous. Et c'est là que nous pouvons rentrer et faire la conquête. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais tant que nous restons affaiblis à nous regarder et dire « pauvre petit moi », qu'est-ce que je suis mal tombé d'être né au 21e siècle, au 20e siècle. Mais vous êtes, c'est merveilleux, c'est magnifique, parce que il y a du travail à faire. Voilà.
Merci. J'aime l'illustration des Romains et jusqu'aux bouddhistes qu'ils ont.